Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est toujours tout seul, maman.
Et voilà, nous sommes le lundi 30 octobre et nous sommes à Sherbrooke dans la radio CFAC pour l'émission hebdomadaire, votre rendez-vous hebdomadaire, les uns les autres. Et aujourd'hui, on reçoit deux Alexandre pour le prix d'un, pour l'association qu'ils vont présenter. Et en cette belle journée enneigée, parce qu'il a fait, hein, il a bien neigé ce matin.
On a commencé effectivement dans un petit peu de neige.
C'était bien agréable. C'était bien agréable ce petit moment de neige, etc., etc. Alors voilà, Alexandre et Alexandre qui nous ont choisi évidemment leur chanson, leur programmation musicale comme on le fait toutes les semaines. Lequel des deux veut commencer?
Mais je vais y aller pour commencer en présentant l'organisme, l'association étudiante. En fait, s'il y a des assidus de l'émission, vous l'avez peut-être déjà reconnu à ma voix et celle de Hal, on est l'association, le club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke. Donc on représente les jeux de rôle et les jeux de société et les autres passe-temps ludiques et geeks. On a notre émission d'ailleurs les mercredis et on est là aujourd'hui pour parler avec toi.
Oui. Et pour parler de vous. Eh bien oui, parce qu'on connaît un peu votre association, bien connue sur le campus, mais vous, pas forcément, vous précisément, personnellement.
Donc on va gagner à être connu.
Bah écoutez, il n'y a pas de raison.
Fait que moi c'est l'autre, Alexandre Bélanger, Al pour les intimes. Parce
ouais,
que
on
quand
avait
je suis arrivé
trop.
Dans le club, il y avait trop d'Alexandre. C'était ça foisonnait d'Alexandre.
On était au moins 5 à s'appeler Alex quelque chose.
D'accord, il y a une prédisposition aux Alexandres pour être passionné par les jeux de société, jeux de rôle.
C'était
et tout
dans
ça.
L'air du temps au Québec, il y a à peu près 25 ans, il y avait des Alexandres partout.
C'était le nom le plus populaire. Moi, j'avais à peu près 18 ans, puis tout le monde se faisait nommer Alexandre. J'ai dit, oh, ça va être compliqué dans 20 ans.
Et effectivement.
Et ça a été compliqué.
Ça a été un petit peu plus compliqué.
Bon, ça va, on distingue bien vos voix tous les deux. Hein.
Oui, ça
donc,
va.
Donc, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Eh bien, Alexandre, tu fais quoi en plus de ton association?
Bon, moi, dans mon association, je suis directeur des opérations. Donc, je m'occupe des relations avec les partenaires dans mon club. Je m'occupe d'aller acheter tous les cossins qu'on a besoin.
Ouais.
Puis je m'occupe réservation de locaux puis trucs comme ça. Et j'ai un co-anime avec notre directeur des activités, notre président et notre directeur des relations aux membres et marketing, l'émission Ludo Radio à tous les mercredis.
D'accord. Beaucoup de jeux à gérer?
Pas si pire. Non, c'est la partie facile, ça.
D'accord.
Le plus difficile de ça, c'est d'apprendre les règles d'un nouveau jeu. Surtout quand il est dense et t'intéresse moins.
Vous devez au moins avoir une petite approche de chaque
règle du
jeu?
C'est pas un devoir par directement. Là. C'est juste que c'est bien que quand quelqu'un veut jouer à un jeu ou quelqu'un pose une question sur le jeu, qu'au moins un des officiers soit capable de lui dire « Ah oui, je connais ce jeu-là, ça ressemble à tel jeu. » C'est pour orienter les gens vers des jeux qu'ils pourraient aimer.
On a quand même une ludothèque de... C'est quoi, c'est 225 titres juste de jeux de société avec les expansions?
Ah oui,
puis ben, ça grossit rapidement. Là, on ajoute presque 27 par année de ce temps-ci.
Ben, définitivement, l'association va vraiment bien. On a une grosse recrudescence de membres. Personnellement, je dirais que c'est les 5 dernières années consécutivement, c'était les plus grandes années que j'ai repéré.
Où il y a eu vraiment un développement.
Oui, on a eu de plus en plus de membres.
Comment vous l'expliquez?
La mode est de notre côté. Voilà à peu près 7-8 ans, Twitch a commencé à faire une émission qui s'appelle Critical Role. C'est 6 voice actors qui jouent à Donjons et Dragons. Ça l'a fait un nouvel âge d'or de Donjons et Dragons. Et la pandémie, oui, nous a fait mal, mais ça a été aussi un nouvel âge d'or des jeux de société. Au point où ce que l'année passée...
Du coup, les gens se sont retrouvés là pour retrouver une convivialité qu'ils perdaient
par ailleurs. Fait que là, on bénéficie de ces gens-là qui ont été initiés, puis finalement, ils viennent nous voir parce que on a des jeux qu'ils n'ont pas, puis on a quelque chose que des gens pris chez eux n'ont pas, du monde.
Plus de monde qui connaissent plus de jeux.
Ouais,
parce
donc,
que
du coup,
apprendre
ça...
un jeu en lisant, c'est bien, mais c'est long. Apprendre un jeu en y jouant avec des gens qui ont déjà joué, c'est beaucoup plus intéressant.
Eh oui, forcément. Forcément. Et puis en plus, il y a le petit côté aussi challenge, je suppose, avec le fait de jouer avec d'autres qui ont un bon niveau, etc. Donc
oui,
il y a une dynamique.
Il y a un peu plus de compétitivité des fois, mais des fois c'est tout à fait convivial. Ça dépend du jeu puis des gens. On trouve des gens de tous les genres. On est très nombreux. Puis ce que Al a dit tout à l'heure par rapport à l'âge d'or du jeu de rôle et du jeu de société, moi, j'étais en plein dedans. Je suis arrivé à l'université il y a à peu près 7 ou 8 ans même. Non, 7. 7. On va pas me dire plus que ça. Puis, quand je suis arrivé, le club était vraiment tout petit, mais commençait à monter déjà beaucoup en jeu de rôle. Quand j'ai commencé, les jeux de société, il y avait comme une dizaine de personnes maximum qui venaient à l'occasion. Puis les jeux de rôle, on avait 8-10 tables de jeux de rôle au travers de la semaine.
La ludothèque, c'était 80-20, 80% jeux de rôle, 20% de jeux de société. Puis c'était pas beaucoup des jeux de société qu'on avait, c'était des dons qu'on avait eus, qui étaient plus orientés wargaming. Mais on a eu un président, Philippe Vallée, qui a commencé à nous...
Pousser un peu le jeu de société.
Oui, ben, il était champion canadien du jeu Pandémie.
D'accord.
Il a un diplôme enregistré chez lui.
Ah, il a un diplôme? Il a un diplôme.
Puis c'est ça. Puis dans le fond, ben, quand Phil est arrivé, Phil était à la fois un grand joueur de jeu de rôle, mais aussi un joueur de jeu de société. Puis dans ce temps-là, le club, c'était pas le club de jeu de société, c'était le club de jeu de stratégie. Donc on a changé la stratégie pour société, pour se distancer un peu des wargames. Puis
ce qui, heureusement, ne changeait pas l'acronyme. On reste le JRSS.
Oui, ça reste du coup, oui.
Puis ben, on a commencé à garnir la ludothèque, puis d'année en année, puis de don en don.
On n'a pas arrêté depuis.
Non, c'est ça. Puis là, nos achats sont complètement inversés. On est rendu 80% d'achats jeux de société, 20% de jeux de rôle. Une des raisons pour ça, c'est que les jeux de rôle, ben, il n'y en a pas nouveau beaucoup qui sortent, qui sont majeurs. Fait que quand on se fait proposer un jeu de rôle, oui, on l'achète. Mais ce qui est joué dans le club, il y en a 4 ou 5, Donjons & Dragons, Pathfinder, on a déjà les livres.
En effet.
Fait que tu sais, c'est comme plus nécessaire d'investir dans ça. Fait qu'on a l'occasion de vraiment se garnir une belle ludothèque.
Pourquoi il y a plus d'engouement pour le jeu de rôle que le jeu de société? Puis c'est quoi la différence entre
les deux?
Il y avait
plus d'engouement pour le jeu de rôle que le jeu de société. Le jeu de société, c'est plus quelque chose de familial, puis passe-temps plus qu'un hobby. Avant, de ce que je comprends, ce que j'ai l'impression. C'était vraiment quelque chose qui était fait dans toutes les maisons, tous les groupes ici et là, mais c'était pas quelque chose qui fait partie de l'identité, si on veut. Mm-hmm. Tandis que le jeu de rôle, étant plus carrément démonisé à une certaine époque, là,
oui, effectivement.
Le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, c'est grand. Ben, c'est souvent, les gens vont aller jusqu'à dire Grandeur Nature, mais Grandeur Nature, c'est plus un jeu de rôle sur table, c'est rendu un jeu de rôle en personne.
Ouais.
Mais ça, c'est pas la même chose. Ça, le club ne gère pas ça, on n'aurait pas l'espace. Absolument pas.
Le campus est grand.
Oui, mais on n'a pas le droit de se promener partout dans le campus en soulignant des épées. Les gens vont nous regarder et probablement nous arrêter.
C'est un jeu avec la sécurité. Puis ça, c'est moi qui vais gérer le dossier.
je pense. Donc, le jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons, Pathfinder, Shadowrun et autres, c'est des jeux où on va incarner des personnages et rouler des dés pour déterminer notre futur. Et ces jeux-là vont être déterminés par incarner des personnages, je veux dire surtout ses actions et sa voix, mais sans être déguisé ou sans actually frapper quelqu'un avec un bâton. Là. On va juste dire, OK, mon personnage va aller là, puis je vais parler à ce noble-là en lui disant, tu gâches les droits des paysans et je vais maintenant te révolter.
Bon, ça se passe dans le théâtre de l'esprit.
Principalement. Il peut y avoir des cartes.
Il y a une différence aussi entre le jeu de rôle puis le jeu de société qu'on appelle le Eurogaming, parce que ça, c'est tout un débat. Il y a deux sortes de jeux. Le principal, le Ameritrash puis l'Eurogaming. Puis on est beaucoup plus dans l'Eurogaming dans le club. C'est qu'il y a 20 ans de différence. Donjons & Dragons, ça a commencé dans les années 70.
Ouais.
Puis bien qu'il y avait des jeux de société avec Parker Brothers puis toutes ces affaires-là, la révolution du Eurogaming, ça a commencé dans les années 90 avec le jeu Settlers of Catan.
D'accord.
Qui est rendu maintenant juste Catan. Puis c'est dans le fond, ça s'est développé beaucoup en Europe, beaucoup en Allemagne. Les gens se sont rendus compte, ah oui, ça peut pogner, ça peut être une industrie. Puis ça l'a rapidement explosé. Puis il y a même des compagnies qui étaient spécialisées dans le jeu de rôle.
D'accord.
Qui ont switché dans le jeu de société.
Ah.
Puis là, ben, le gros géant du jeu de société, c'est le groupe Asmodée. C'est un groupe français. C'est en Europe. Ils ont acheté un paquet de maisons de publication là, partout dans le monde.
D'accord. Et le jeu vidéo, ça n'a finalement pas eu d'impact sur le jeu de société et le jeu...
C'est que c'est très différent. Le jeu vidéo, généralement, c'est basé sur le volume, c'est basé sur la répétition.
Ouais.
Tandis que le jeu de société, souvent, ça va être basé sur l'interaction entre les joueurs.
Le jeu de rôle aussi.
Oui, le jeu de rôle aussi.
Je dirais que le jeu vidéo ressemble souvent plus au jeu de rôle souvent, si on regarde, mettons, les jeux vidéo style MMO, là, si on regarde un Farming Simulator, ça peut ressembler à un jeu de société tout à fait.
Oui, effectivement.
Mais... Ouais.
L'autre option aussi, c'est que, vu qu'on n'est pas attaché avec la programmation, puis des assets dans le jeu de rôle, dans le fond, l'imagination, c'est la limite du maître de jeu. Parce que dans le jeu vidéo,
oui, c'est la machine limite, qui imagine quoi.
C'est ce qui a été créé. Je vous dirais, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Baldur's Gate 3, qui, moi, en tant que maître de jeu, me jette à terre. C'est un des jeux vidéo basés sur le jeu de rôle le plus étoffé que j'ai jamais vu de ma vie. Mais ça a pris... ça a coûté quoi? 8 ans à faire, 800 millions.
Ah ouais.
Pis... Oh oui. Mais c'est... Oui, mais c'est parfaitement... Ça va être le jeu de l'année, c'est parfaitement mérité. Pis,
C'est juste que même ça... on a une menu de sélection de ce qu'on peut faire. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, la grosse différence entre le jeu de rôle puis le jeu vidéo, même si le jeu vidéo est très bien fait, il y a des limites physiques. Donc, on gagne en qualité visuelle, on gagne en voix, en narration, mais on perd en liberté. Tandis que dans le jeu de rôle, si mes options, c'est moi qui ai choisi. Je peux décider à tout moment de sortir une tarte de mon sac puis de la lancer sur quelqu'un. En personnage, là. À table, ce serait un peu mal vu. Mais... Tandis que dans le jeu vidéo, ce ne sera jamais écrit sortir une tarte de ton sac et la lancer sur quelqu'un. Mm. Tandis que tu peux le faire quand tu veux.
Et puis, il y a sans doute aussi le lien avec l'autre.
Tout à fait.
C'est autre chose que de jouer avec quelqu'un qui est à distance, dont on voit...
Effectivement, même si on peut jouer en ligne à beaucoup de jeux vidéo et qu'on peut partager nos aventures avec des amis à distance, il n'y a pas le même lien qu'à être assis autour de la table et créer l'histoire ensemble.
On a le même phénomène aussi dans les jeux de société. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont adaptés en jeux vidéo, mais c'est pas le même feeling de jouer à Terraforming Mars, le jeu vidéo, même avec d'autres personnes, que juste s'asseoir autour de la table puis jaser. C'est ça.
Pour commencer, il y a la demi-heure de placement qu'on n'a pas à faire sur le jeu vidéo.
Ben oui, c'est ça.
Ça forge des liens, cette demi-heure-là, à placer le jeu puis à préparer les cartes.
Ça prend le travail d'équipe. Moi, je joue toutes les semaines à deux gros jeux qui s'appellent Gloomhaven puis Frosthaven.
Ouais.
Frosthaven puis Gloomhaven, ça peut prendre 2 heures jouer le scénario, mais ça peut prendre à une personne une demi-heure préparer le scénario.
Quand même,
On est rendu à 15 minutes à Gloomhaven. Puis à Frosthaven, moi, j'étais avec deux petites machines qui ont exactement leur job, puis le jeu est tout organisé. On est down à 8 minutes préparer un scénario.
D'accord.
Des fois, je me lève, vais aller faire d'autres choses, ils ont fini, ils font ma job. C'est vraiment...
Donc oui, on a cette connexion humaine-là, qui, j'avais beau niaiser tout à l'heure en disant « le setting, c'est long ». Oui, mais ça permet mais de parler d'autres choses. On parle de notre fin de semaine, on parle de nos programmes, on parle de nos difficultés. Il y en a même qui font du réseautage en faisant des jeux, pourquoi pas. On rencontre des gens, puis on se rend compte que, je ne connaîtrais jamais cette personne-là qui fait de l'histoire dans la faculté d'histoire, mais on a un point commun sur ce trait-là, parce que moi, je suis en sciences, puis elle en histoire. Puis on se parle, on devient amis, puis on fait des belles connexions qu'on n'aurait jamais pu
faire. Ça s'est terminé déjà? Il y a déjà eu un mariage ou pas?
Mariage, que je sache.
Il y a eu des couples.
Il y a des couples.
Des couples, mariage? Définitivement. Mariage, que je sache.
Phil et Ariel vont s'acheter une maison. Je ne sais pas si c'est...
Ah bah c'est...
Moi, je trouve que c'est pire qu'un mariage.
Oui.
fait que
c'est définitivement
ça.
Plus d'investissement.
Oui.
Surtout ces temps-ci.
C'est clair. Alors, on va commencer un peu votre programmation musicale. On va commencer par la première. Vous avez mis Mika, elle me dit. Et après, vous me direz un peu pourquoi vous avez choisi cette chanson. Et puis, on va parler un peu de vous aussi. Allez, c'est parti pour Mika. Hey!
Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Je comprends.
Voilà, Mika, elle me dit hein, que c'était un gros tube, cette chanson-là. Pourquoi cette chanson, tiens, en particulier, Alexandre?
C'est une bonne chanson.
Oui, alors c'est une bonne chanson, mais bon, quand je choisis une chanson, c'est qu'il y a toujours une petite raison quand même.
C'est une chanson sur le jugement.
Le jugement,
oui.
Intéressant.
Et moi, je suis un petit peu plus vieille génération. J'étais dans les pionniers du jeu de rôle, principalement, et beaucoup de gens qui ne comprenaient pas c'était quoi. On se faisait accuser de toutes sortes de patentes.
Oui, tout à l'heure, quand j'ai dit que le jeu de rôle avait été carrément démonisé à une certaine époque, c'est pas des exagérations.
Alors, c'est quoi cette histoire de démonisation?
Dans les années 90, il y avait des conservateurs au pouvoir aux États-Unis. Fait qu'à place de travailler sur les problèmes sociaux, on crée des fausses paniques. Là, présentement, c'est la panique des trans et des personnes gays et tout ça. Dans mon temps, on ne pouvait pas aller là. Donc, on allait dans les gens qui jouaient à des jeux de rôle dans lesquels il y avait des démons, des trucs comme ça. Fait qu'on devait faire du satanisme, des affaires comme ça. Pourquoi se donner la misère à comprendre quand tu peux juste pointer du doigt puis
finalement, ils ont beaucoup d'imagination quand même.
C'est ça.
Parce qu'il faut le faire quand même, partir d'un jeu pour réussir.
Non, mais ça, c'est typique de la droite américaine. D'essayer de blâmer les autres, là, c'est un petit peu de couleur aussi. Si tu leur ressembles pas, là, t'es automatiquement, tu vas être classé comme...
Je dirais pas que c'est pas que ça se faisait pas, c'est que c'était moins socialement accepté, fait que c'était moins un problème.
Dans ce temps-là, c'est ça, les gens étaient en garde-robe, puis fait que c'est ça, fait que
c'était moins visible, fait qu'on n'allait pas le pointer du doigt, c'était pas là.
Il y en a eu essentiellement, ton voisin pouvait l'être, puis t'avais aucune idée que c'est ça.
Il y a toujours une raison de stigmatiser les gens, de toute façon.
Oui, ben c'est ça.
Exactement.
N'importe quel extrême va tenter de mettre quelqu'un en bouc émissaire, là. C'est souvent comme ça. Effectivement, la chanson, elle me dit, voulait justement dire... qu'on dit de faire n'importe quoi d'autre parce que ce qu'il fait, c'est pas correct.
En France, il y a 3 ans, il y avait des panneaux qui étaient mis dans les magasins, puis dans certains parcs, interdits aux chiens et aux non-vaccinés. Bon, voilà, ça donne un peu une idée de la capacité de l'humanité à être parfois un peu stupide, il faut bien l'admettre. Le jugement, c'est quoi?
Le jugement, c'est justement de tirer une conclusion sans avoir tous les faits.
Est-ce que c'est pas du préjugement, justement, du préjugé?
Je te dirais que le préjugé, ça va au-delà du jugement. Le jugement, tu vois quelque chose, puis tu poses une opinion, mal renseignée, mal. Tandis que le préjugé...
T'as même pas besoin d'avoir vu.
T'as même pas besoin de l'avoir vu.
Oui, c'est juste comme ça, a priori. En quelque sorte. D'où le choix de cette chanson?
Oui, entre autres.
Tu as fait.
Ce qui est heureusement
qu'est-ce que tu fais comme étude dans la vie?
Moi, j'ai un bac en administration spécialisé en gestion d'information système. Et je suis technicien en informatique. Non, excusez-moi, j'ai changé de titre. Je suis technicien en intégration en programmation informatique. Je pense que c'est rendu ça, le nouveau titre du poste. Bref,
À l'université.
Oui, à l'université et au bureau de la registraire. Bref,
est-ce que ce sont plutôt des scientifiques qui jouent au jeu, tiens, justement, ou plutôt des littéraires?
On en a de tous les... Mais...
Je dirais qu'on a 3 gros groupes. On a science, on a génie, puis on a histoire-éducation, ce bout-là.
D'accord.
Oui, on va avoir...
On a très peu d'admin, à peu près jamais.
Non, parce qu'il aime ça trop. Il aime trop savoir. Excusez, là, je fais une blague dans ma tribu. Mais non, admin, ils ont tendance plus à vouloir réseauter par l'entre eux autres. Puis c'est trop soft. Souvent pour eux autres, les jeux de rôle, les jeux de société.
Est-ce que ça a une influence, le fait de venir de génie, de science ou d'éducation ou d'histoire sur le choix des jeux?
Oui, absolument.
D'accord, absolument. C'est de quel type cette influence?
Je pense que ceux qui ont des profils un petit peu plus scientifiques ont tendance à y aller sur des trucs plus encadrés, puis ont tendance à être plus compétitifs, puis à vraiment penser à leurs affaires, là, mais vraiment, puis à vouloir performer. Tandis que les gens qui ont tendance à venir de côté un petit peu plus soft, comme éducation, des trucs comme ça, sont là pour avoir du plaisir.
D'accord. C'est une autre approche du jeu, en fait. À côté la compétition, de côté plutôt la détente.
Ben, l'optimisation. Pas tant la compétition que l'optimisation. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on joue en coop aussi.
C'est juste essayer de faire la meilleure machine possible. Que ce soit pour gagner ou pas, l'important, c'est d'être satisfait par « j'avais cette idée-là, je l'ai emmenée à fructification, je suis content ».
Oui, c'est finalement la démarche un peu logique du scientifique, d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est vrai. Et en tant que scientifique moi-même, je confirme que c'est pas mal comme ça que je fonctionne. Je vais chercher un système très encadré, système complexe, système réaliste pour le jeu de rôle. Puis pour le jeu de société, je vais chercher des règles complexes et riches qui permettent toutes sortes de stratégies à l'extérieur de la boîte pour arriver à faire une machine qui fonctionne.
Quel est ton parcours d'études à toi?
Moi, j'ai fait mon baccalauréat en écologie ici.
Ouais.
Et ensuite, je me suis lancé dans une double maîtrise en environnement et en écologie, d'accord, qui à l'époque s'appelait écologie internationale.
Ouais.
Sauf que j'ai fini environnement en janvier 2020. Si vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Mmh. Bien, écologie internationale, disons, a pris une pause. Donc,
il y a beaucoup de choses qui ont pris une pause à ce moment, en 2020, je crois.
Oui, oui, ben, le mois international n'était définitivement pas le succès de l'année, cette fois-là. Donc, ma maîtrise double a été retardée et j'ai fini là. Je viens de remettre mon document et j'ai reçu aujourd'hui mon courriel qui me disait que mon mémoire avait été accepté.
Donc, félicitations.
En effet.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Je ne suis pas encore diplômé, il faut qu'il évalue l'autre partie de mon parcours.
Mais enfin, c'est bien parti.
Oui, c'est très bien parti.
Donc, qu'est-ce qui vous a poussé?
J'ai rarement
d'abord à jouer
ou ça n'arrive pas.
Bureau d'enregistrage, je peux dire. Oui, c'est probable que...
J'en vois quelques-uns, là, mais non.
C'est l'étape la plus importante qui est franchie, là, quand même.
Qu'est-ce qui nous a poussé au jeu de société?
Oui, ça vient de l'enfance. Vous étiez passionné par les jeux quand vous étiez enfant?
Étrangement,
vous aviez déjà
non.
Quelque chose? Non?
Étrangement, enfant, moi, j'étais plus à jouer dehors puis à ramasser des branches puis des crapauds. C'est écologie, ça a quand même du sens.
Oui, il y a mais, aussi un passif, ouais.
Rendu au cégep, il y a un de mes amis qui m'a demandé « Hey, est-ce que ça te tenterait de venir faire une game de Donjons Dragons avec nous? » J'avais une vague idée de ce que c'était parce que dans les médias sociaux, les médias, les films et autres, on commence à en parler un petit peu plus à l'occasion. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Donjons Dragons à cause de Stranger Things.
Oui, c'est vrai. Netflix. C'est vrai.
Donc, j'avais une vague idée de ce que ça voulait dire au cégep. Puis quand on m'a proposé ça, j'étais comme « Bah, ça va avec des amis, je vais l'essayer. » Puis mon moi scientifique m'est tombé dessus. Je me suis mis à lire tous les livres qui étaient disponibles. Je me suis mis à triper beaucoup trop là-dessus. Après à peu près 3 mois à jouer dans une nouvelle partie, le DM a fait comme « Non, c'est trop compliqué. » Donjon Master, c'est la personne qui gère la partie, a fini par faire « Non, c'est trop compliqué pour moi. » Moi, ça faisait 3 mois que j'étais dans le lobby. J'ai fait comme « Hey, je vais le faire. » J'ai pris la game puis je l'ai continué pendant 6 mois en n'ayant aucune idée de ce que c'était 3 mois avant. Donc, quand mon cégep s'est terminé, puis je suis arrivé à l'université, j'ai cherché le groupe. J'ai fait comme, où est-ce qu'il est, le groupe de jeux de rôle?
Ah oui, t'es vraiment venu avec cette idée en tête.
Et à la journée de rentrée, où on va chercher notre agenda et notre carte d'étudiant, j'ai fait le tour du parcours 2 fois en train de chercher le groupe, qui était beaucoup moins dynamique à l'époque, mais il existait. Je l'ai trouvé, et je suis rentré dans le groupe, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux de société aussi. Puis que c'était une activité périodique. Puis j'étais comme, bah, pourquoi pas? Puis je me suis mis à faire de plus en plus de jeux de société, puis me rendre compte que...
Il est accidentellement devenu président du groupe aussi.
C'est une histoire complexe. Je
ne suis pas accidentellement devenu président. C'est le résultat d'un investissement et d'un engagement.
La première année, je me suis impliqué. Puis au milieu de la première année, je me suis proposé volontaire comme maître des clés, parce qu'à l'époque, nos armoires étaient barrées avec des clés.
Ouais.
Donc, c'est le titre d'entrée du club, où on fait juste venir ouvrir les portes, puis être une personne de confiance pour emprunter les jeux.
D'accord.
C'est tout.
D'accord.
Et l'année suivante, j'ai repris le même titre, mais le directeur des activités a démissionné au courant de l'année.
Ouais.
Puis je me suis proposé volontaire pour être directeur des activités par intérim.
D'accord.
Je suis devenu directeur des activités. J'ai fait la même chose l'année d'après. Dans le fond, j'ai continué au titre de directeur des activités.
Uh-huh.
Et durant cette année-là, le président a démissionné. Donc, je me suis proposé comme président par intérim. Je suis devenu président par intérim et je le suis resté pendant 4 ans jusqu'à cette année où, en sachant que ma maîtrise se terminait, j'ai volontairement pas proposé mon nom comme président pour laisser quelqu'un d'autre au pouvoir pendant que j'étais encore là pour faire l'entre-deux.
Assurer la relève.
S'il fait de la politique, il va être terrible, lui.
J'ai tué personne.
Et toi, alors, le jeu, ça vient de l'enfance, toi? Ou alors c'est
moi,
comme...
ça vient... Le jeu de société, j'ai commencé dans l'améritrage parce que c'est juste ce qu'on avait quand j'étais tout petit. On avait une gardienne que j'aimais beaucoup qui amenait des jeux comme... Le Château de la Fortune ou le Triangle des Bermudes. Puis à la maison, mes parents, avant qu'ils nous aillent, ils en avaient plein. Donc, ils faisaient des soirées avec des amis. Fait que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Moi, j'ai découvert vers 7-8 ans le jeu de diplomatie, le jeu jour de paye, etc., etc. Risque dans notre risque, garde-robe. Puis je me suis mis à lire les règles, puis regarder ça, puis j'étais intéressé, tout ça. Puis... fait que j'avais un intérêt, puis j'ai découvert les jeux de rôle à peu près vers 17-18 ans. J'avais un ami qui était full equip, qui avait une bibliothèque essentiellement de romans et de livres de Donjons et Dragons.
Uh-huh.
On a commencé à jouer, puis j'ai fait comme « wow ». Puis j'ai embarqué dans ça aussi, là, puis je n'ai jamais vraiment regardé en arrière, puis ça fait 30 ans de ça.
Et quand tu es rentré à l'université, logiquement, l'association?
Non.
Non?
Non. Moi, je suis venu, puis ben, comme Alex dit, le groupe était pas mal moins dynamique. Je n'étais pas capable de mettre la main dessus. Pis j'avais un réseau d'amis de mon âge et un peu plus jeune, où j'avais tout ce que j'avais besoin pour ça. Puis, voilà, 6 ans, j'ai eu une idée de faire un podcast. Puis, je voulais pas le faire avec mes joueurs habituels parce qu'on est beaucoup trop confortables ensemble. Ouais. Ça se met pas en radio. Et, fait que je suis venu au club. Puis, j'ai dit, hey, je vais faire un podcast d'un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun. Qui est intéressé? J'ai recruté des personnes, on a enregistré quelques épisodes. Finalement, ça a tombé à l'eau. Mais. Ah.
Le podcast.
Le podcast.
Oui, le podcast, oui.
Parce que l'implication n'est pas tombée à l'eau.
Au contraire.
Dans le... Pourquoi le podcast, ça n'a pas marché? C'est un format qui n'est pas adapté?
Non, c'est pas ça. C'est, bon, on a eu des problèmes techniques d'enregistrement. Fait que, puis c'est une partie de jeu de rôle. Fait que là, malgré tu dis aux gens, ben là, les deux parties de jeu de rôle, pendant toute la partie, quand on enregistrait, ça disait « trial expired ». Parce qu'on avait un gestionnaire de micro que j'avais ramassé gratuit. Fait que les games étaient scrap. Puis, ben, y a une personne qui a quitté l'université, donc la région. Puis, puis la sauce, ça prenait pas super bien. Fait que j'ai décidé, je vais tirer la plug, je vais faire d'autres choses. J'ai parti une autre partie, pas un podcast. Puis, il y avait plein de monde qui était intéressé à jouer.
Il a fallu que t'en fasses deux.
Oui. Il y avait plein de monde qui était intéressé à jouer, mais pas en podcast. Ils voulaient juste jouer dans l'intimité.
D'accord.
C'est ça. Alors, puis de fil en aiguille, ben, je commençais à venir aux soirées board game parce que j'avais des amis qui disaient « Hey, viens, on va jouer à tel jeu. » Puis ben, un moment donné, ben, je me suis bien rendu compte qu'il y avait besoin d'aide, ce petit club-là. Parce que si t'as des jeunes, puis moi, ben, j'ai un background de business, fait que la gestion, là, je connais ça un petit peu plus. L'âge aide aussi. Fait que j'ai proposé, je commençais à aller à des conseils exécutifs pour leur dire, leur proposer des solutions. Tu sais, comme ils mangeaient leurs profits, ils cannibalisaient leurs propres profits. Ils vendaient des choses à très petits bénéfices.
Ouais, d'accord.
Puis il y a des choses à haut bénéfice qui ne bougeaient pas parce qu'ils étaient trop chers. Fait que j'ai proposé d'ajuster les prix, tout ça. Puis de fil en aiguille, on m'a demandé de. Il y a quelqu'un qui est parti. Fait que. Oh, comme Alex, j'ai pris une place, puis je n'ai pas vraiment regardé en arrière. J'ai été directeur de communication pendant quoi? 4 ans?
3-4 ans.
3-4 ans. Puis je prenais de plus en plus de responsabilités. Puis à un moment donné, on est venu à l'évidence qu'il fallait qu'on divise mon poste. Fait que j'ai gardé la partie opération, dans le fond, parce que là, je m'occupais. Puis j'aidais le président aussi dans plusieurs de ses tâches. Fait qu'on a défini ce poste-là. Puis j'ai pris directeur des opérations là, depuis. Ça va faire.
Un an,
mon deuxième mandat.
D'accord. Est-ce qu'il faut être un grand enfant pour...
Est-ce qu'il faut?
Rester un grand enfant quelque part pour être encore dans le jeu comme ça?
Moi, je n'ai pas d'enfant. Fait que c'est un petit peu aussi ma façon de redonner. Puis, je suis dans une culture de bénévolat. C'est important de faire du bénévolat. Ouais. Alors, pourquoi moi, c'est important pour moi. Puis, ce n'est pas un bénévolat qui m'emmerde.
Pourquoi c'est important, bénévolat?
Quand on est chanceux dans la vie... puis je pense que j'ai été très chanceux.
Ouais.
Je suis né dans une bonne famille, j'ai une bonne éducation, j'ai pas de problème physique, quoi que ce soit. Mm-hmm. Je suis blanc. Tu sais, on s'entend, ça tourne pour moi. D'ailleurs, ça pourrait être la prochaine track.
Tout à fait.
Et c'est important, je pense, c'est pas tout le monde qui est fortuné comme ça. Puis moi, redonner, c'est important. Puis redonner dans ce contexte-là, c'est parfait.
Comment la famille, les amis, les gens autour, les collègues, comment ils voient votre implication? Est-ce que ils le voient positivement? Ou alors est-ce qu'il y a encore des restes justement des années 90? Comment ils voient ça? Ils vous voient un peu comme des grands enfants? Ils vous disent pas, des fois maman vous dit pas, bon, il va falloir que tu grandisses mon fils, je sais pas?
Moi, j'ai une partie de la réponse, puis une réponse différente en fonction du groupe, parce que moi, évidemment, je suis dans un contexte où je suis encore aux études. La plupart de mes collègues sont à peu près du même âge ou plus jeunes que moi, étant donné que ma maîtrise a bogué. Donc, pour moi, c'est relativement bien vu. La plupart des gens connaissent les jeux de société, sont intéressés. Ils sont comme « Ah ouais, tu fais ça, c'est cool. Ah, j'ai vu le jeu de rôle dans tel film. J'aimerais ça essayer. Ah, c'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait ça à l'Uni. C'est vraiment cool. » Puis mes parents s'inquiètent pas trop pour moi. Non, ils me disent pas que je suis un bébé ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, quand tu as dit la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, ça m'a rappelé que quand ma mère était plus jeune, elle adorait faire des soupers meurtres et mystères. Je me dis, si elle avait eu accès aux jeux de rôle, probablement qu'elle en aurait fait. C'est juste que.
Et qu'elle se serait bien amusée.
Donc, on s'inquiète pas trop pour moi. Les gens, en général, trouvent ça génial. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même ligne de qu'est-ce qu'un jeu de société.
Ouais.
Pour beaucoup, un jeu de société, c'est simple, rapide, puis party. Tandis ouais. que, ben, on en a des comme ça, c'est sûr.
Oui.
Mais on en a aussi des un peu plus complexes, puis des « prépare-toi à passer la nuit là-dessus ». Donc,
c'est et les toi? Meilleurs. Ben moi, c'est un petit peu plus tragique, Alex. Moi, c'est c'était s'échapper, s'évader. Je bois pas, je prends pas de drogue ou quoi que ce soit. Fait que le jeu de rôle, le jeu de société, c'était une évasion. Puis la famille, ben c'était un conflit perpétuel avec mon père qui
D'accord.
n'était pas capable de jouer du tout, du tout. Éventuellement, il a compris. Puis, ben, pas longtemps après, le cancer est parti avec.
Ah.
Et puis, ben, ma mère, elle comprendra jamais. Puis, mes sœurs, ben, m'acceptent comme je suis, mais comprennent pas non plus. C'est quoi, qu'est-ce que je trouve dans ça? Mais moi, personnellement, oui, je suis un petit peu le doyen du groupe, mais j'ai quand même un sac social en dehors du club avec des gens qui sont encore plus vieux que moi, qui sont aussi kids que moi.
Est-ce non, que c'est... le jeu souffre d'une forme de comment dire de préjugés oui. négatifs
de moins
pas,
en moins.
Je veux dire, c'est pas comme quelqu'un qui va dire bah moi je vais à la salle de sport alors que c'est pas forcément voilà j'ai la salle de sport où je fais du sport où je
ouais,
j'ai
une passion, je sais pas quoi. De moins en moins.
Ouais.
J'en se rends compte que c'est aussi une business que c'est un hobby légitime mais on a longtemps été très mal servi par la culture pop même. On regarde The Big Bang Theory, qui essentiellement, c'est des nerds de physique puis de génie qui jouent des jeux de société, des jeux de rôle. Puis qui
mais vont c'est des personnages compte, un peu caricaturaux quand même.
Et c'est oui. des totalement caricatures. C'est pas... ça, voilà. ça nous sert pas. Ça l'a fait comprendre un peu plus la culture au reste de l'humanité. Mais c'est ça, c'est on est encore souvent caricaturé. Moi, je travaille à améliorer ça.
Puis, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la salle de sport... c'est sûr que les gens vont suivre. Il y a encore du monde qui vont me dire tu veux pas juste faire du sport à la place. Puis souvent, un des éléments que je nomme, c'est sure, c'est le fun de faire du sport, j'en fais aussi, c'est le fun. Mais les aspects équipe, relationnels sont là encore plus parfois dans les jeux de société, les jeux de rôle. Puis le développement qu'on fait, pas nécessairement physique. Je vais pas devenir plus fort en faisant des jeux de rôle. Je vais pas devenir plus agile. Mais la coordination main-tête peut être améliorée. Puis surtout, la vitesse de cognition est tellement amélioré. C'est même recommandé pour les personnes âgées qui souffrent de certaines
oui,
maladies
c'est
mentales.
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Par exemple, donc, contre Alzheimer, par exemple, c'est efficace.
Donc, même si je ne suis pas en train de me muscler, je suis quand même en train de m'améliorer en tant que personne.
Oui,
c'est juste
sûr.
Pas du même point.
Mais comme toute passion et tout engagement, d'une certaine manière.
Tous les mammifères vont jouer. La différence entre les humains et les autres mammifères, c'est notre cerveau.
Donc, nous, on met des règles plus claires sur
c'est
le
ça.
Jeu.
C'est ça. Nous autres, on se structure, puis ça a plein d'autres avantages. On pourra en parler, mais je suis sûr que là, tu veux lancer
oui, on va continuer à en parler. Et on va partir sur une autre chanson. Et on va partir sur une chanson qui m'a surprise. C'est Plastic Bertrand, ça plane pour moi. Alors, vous allez me dire aussi pourquoi vous l'avez choisi, celle-là. Et puis après, on va parler un peu de l'adaptation des jeux au cinéma. Alors, ça, c'est un truc qui m'intrigue. Alors, vous connaissez sûrement plein de choses là-dessus. Plastic Bertrand. Ça plane pour moi.
Bam bam, on s'asplace, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ça plane pour moi.
Placide Bertrand, dans les années 80, la grande époque des Bee Gees, années 80. Pourquoi Placide Bertrand?
Ben, premièrement, c'est une super bonne toune, spécialement faire de l'exercice ou quelque chose de cardio là-dessus. Deuxièmement, parce que ben, le CGRSS, ça va super bien présentement.
Donc, ça plane.
Oh, ça plane. On a l'année passée, on a eu une année record, puis on s'aligne pour déjà battre notre année passée.
En fait, comme je disais tout à l'heure, les cinq dernières années étaient des années records back-à-back, consécutivement. On a passé de... Quand je suis rentré en poste comme président, on avait moins de 60 membres. Et cette année, on en avait enregistré 83, quelque chose comme ça.
Ah ouais, mais ça, c'est les gens qui payent pour participer, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui
viennent. Nos activités sont gratuites de base.
Ouais.
Alors, on rappelle que c'est le...
Club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke.
Et que c'est CGRSS. Et c'est quand?
C'est tout le temps. Mais si vous voulez venir nous voir, passez sur Facebook, facebook.com/CJRSS. Vous allez tomber sur notre page ou vous pouvez venir nous visiter sur notre groupe. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous voir physiquement au local aussi, au E10012.
Quand on dit que c'est tout le temps, c'est parce qu'on a des permanences, des moments où un de nous, les officiers, est présent au club au moins une fois par jour de semaine.
Il y a quelqu'un presque tous les soirs de la semaine.
J'espère que vous avez bien noté les auditeurs. Voilà,
moment idéal, c'est de venir le mercredi soir, puisque le mercredi soir, c'est notre soirée de jeux de société.
Ouais.
Donc, si vous voulez rencontrer du monde, jouer à des jeux de société, c'est la place.
Voilà, donc message passé et faites passer le message.
facebook.com/CJRSS.
Voilà. Alors, le cinéma a longtemps ignoré le jeu. Et puis... Tout d'un coup, il a commencé à s'y intéresser et il a même sorti des morceaux d'anthologie, Assassin's Creed, par exemple. Pourquoi cet intérêt soudain du cinéma pour le jeu?
Ben, moi, je commencerai avec le fait que c'est des nouvelles histoires. Parce que le cinéma s'intéresse à la littérature d'abord, aux contes et légendes qu'on connaît. Mais le jeu vidéo fait un peu la même chose, mais le jeu vidéo et le jeu de rôle, parce que Assassin's Creed, c'est le jeu vidéo, créer des histoires, créer des mondes différents, puis ça crée une nouvelle ressource en histoire. Puis cette nouvelle ressource-là, bien qu'elle était méconnue et méprisée même parfois, ils se rendent compte maintenant que ça existe, c'est grand, c'est intéressant, puis il y a de quoi à faire avec ça.
Et ça crée beaucoup d'engouement, parce que c'est des films qui remportent un immense succès à chaque fois.
Définitivement, puis c'est ça, bien que tout le monde... soit intéressé par des nouveaux films. Si c'est une reprise d'un film qu'on a déjà vu, c'est moins intéressant. Si on peut créer du nouveau stock, puis que ce nouveau stock-là existe déjà en plus, pourquoi on s'en passerait?
Est-ce qu'on peut dire que le jeu, aujourd'hui, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de rôle, voire le jeu de société, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux de société aussi qui sortent depuis quelques années.
Définitivement.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le jeu, finalement, est plus créatif, plus inventif que le cinéma, dont on a l'impression que depuis quelques années, il s'affadit, il se répète et il s'enfonce un peu dans la monotonie.
Moi, j'ai une perspective un petit peu plus vieille où j'ai vu plusieurs tentatives d'amener ces choses-là à l'écran. Mais c'est souvent fait, excusez l'anglicisme, mais half-ass. C'est fait avec très peu d'efforts, très peu de moyens. Généralement, un directeur qui s'en fout. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de cynisme, spécialement dans ma génération, puis la génération après moi. Génération X, génération des...
Les millennials.
Les millennials. Les deux, là, on a vu des...
Des ratés.
De la cochonnerie.
Des ratés.
Oui, de la cochonnerie, littéralement. Fait qu'on est très cynique vis-à-vis de ça. Mais là, on assiste à des gens qui se forcent, puis qui sont
qui aiment le jeu, qui connaissent le jeu.
Connaissent
c'est
le
c'est
jeu.
Un bon départ, ça.
Un ouais. super bon oui. exemple. On parle de cinéma, mais on peut parler de streaming. Henry Cavill qui a sacré son camp de The Witcher. Parce que...
Et les séries télé, vous parliez oui. tout à l'heure de Stranger Things, par exemple,
oui.
qui est vraiment un univers presque typique d'un jeu de rôle, quelque part.
Peut-être, mais ce ne sera pas un univers typique de Donjons et Dragons. S'il y a de quoi, ça ressemblerait plus à Call of Cthulhu qu'autre chose.
Oui, effectivement. Le problème de Assassin's Creed, c'est que tu as juste un protagoniste. Généralement, tu as tendance à avoir un entourage, un ensemble. Mais bon, Witcher... C'est un super bon exemple parce que t'as, oui, t'as le personnage du Witcher, mais t'as des gens autour de lui, pis c'est typique, t'as le barde, t'as une magicienne, t'as une jeune femme avec des pouvoirs extraordinaires. Mais Henry Cavill a littéralement sacré son camp de la série parce qu'on voit la série dégrader de saison en saison.
Ah, ouais, bon, comme beaucoup de séries en général, ça commence
mais ça
bien.
Ça sort de l'ambiance, ça sort des livres, ouais. ça sort du jeu.
C'est ça.
Parce que c'est The Witcher, c'est une série de livres, c'est un jeu vidéo, en fait, une série de jeux vidéo. Puis Henry Cavill est un grand nerd, en fait.
Oui,
il s'intéresse beaucoup
de
à ça.
Warhammer 40 000, là.
Puis... Qu'est-ce qui explique que dans le jeu, il y a une fascination pour le monde du fantastique?
Je vais juste finir mon point, si ça ne dérange pas.
Excuse-moi, désolé.
On assiste aussi à l'inverse. On assiste à des gens qui ont décidé de mettre la gomme puis de faire un super bon produit. Meilleur exemple, le film de Donjons et Dragons cet été.
Oui.
Que je suis allé voir avec un petit brin de... Ouais, non, ça, c'est sûr que ça va puer, mais c'est Donjons et Dragons. Je suis sorti de là absolument enchanté.
D'accord.
Oui, une excellente pièce. Ça résume, c'est
fidèle oui. à ce qu'on connaît. C'est comme, c'est pas juste du... C'est un réalisateur qui comprend Donjons et Dragons. Il fait des... Puis... En tant que joueur de Donjons & Dragons, on regarde le film puis on est crampé pas juste par ce qui se passe à l'écran.
Il y a des genres de méta-blagues.
Le méta en arrière qui est hilarant, c'est comme... C'est délicieux. Fait que oui, puis je pense que là, ils se rendent compte que quand on se donne la peine...
Ça fonctionne.
C'est ça. Faudrait que Marvel se rappelle ça aussi. Parce que...
T'as beaucoup demandé,
c'est Phase 4, là, c'était raide, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est se donner le trouble.
Pourquoi l'univers du fantastique est-il vraiment quelque chose qui est... Enfin, c'est une caractéristique du jeu. Pourquoi le fantastique?
Je vais commencer avec quelque chose que Al a dit tout à l'heure. Pour beaucoup qui ont commencé plus jeune, ou il y a plus longtemps, c'était une forme d'échappatoire. Mm-hmm. Puis quand on fait une forme d'échappatoire, on ne veut pas se promener dans les rues de notre ville avec des problèmes réels, puis avec des taxes et des impôts. On veut lancer de la magie, courir après des dragons, puis... faire des choses qu'on ne peut pas, absolument pas, faire dans la vraie vie.
C'est plus facile aussi faire, on appelle ça le « suspension of disbelief ». C'est plus facile quand tout est « over the top », tout est, on est complètement dépaysagé. C'est plus facile de se sortir de son... l'argument souvent qu'on va avoir, c'est si on joue un jeu de rôle trop réaliste, c'est comme « ah, ça se peut pas, la physique veut pas, nanana ». Là, il faut ramener, expliquer la magie. C'est jamais des arguments qu'on a vraiment à Donjons et Dragons. La seule affaire qu'on avait, c'est dans les années 90, quand les règles étaient mal faites, le poids d'une épée, le nombre de fois qu'on pouvait frapper dans une minute, des trucs comme ça.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté à la fois futuriste, entouré par le fantastique, et en même temps, une référence presque systématique aussi à l'univers médiéval.
Dans les systèmes comme Donjons et Dragons et Pathfinder, habituellement, on va avoir ça, oui. Mais c'est ça que je m'en allais dire après, c'est que bien que ça ait commencé comme ça, cet échappatoire médiéval fantastique, le thème médiéval fantastique est d'ailleurs utilisé pour beaucoup de ces jeux-là, il existe d'autres settings qui sont de plus en plus émergents. Par exemple, on a un jeu de société. Je vais finir par le dire. On a un système de jeu de rôle qui est basé sur la fin du monde viking. C'est pas médiéval, mais c'est pas loin. Mais c'est pas du tout le même type de fantastique. On a un jeu de rôle qui est basé sur se battre dans les étoiles avec Star Wars, on a Stargate, on a Star Trek.
Babylon 5. On a aussi des jeux What If. Qu'est-ce qui se serait passé si, moi, mon meilleur exemple, notre jeu pas mal préféré à moi puis Alex, Shadowrun, où il y a eu essentiellement, en 1998, la magie est revenue.
En 2011, en fait. En 1984, c'est le moment où la timeline se sépare.
C'est ça. En 1984, la timeline se sépare.
Les auteurs ont écrit leurs choses en 1984, comme s'ils étaient dans notre monde.
D'accord.
Puis que tout allait passer normalement, mais en 2011, la magie revenait sur des cycles de 2000 ans. Ce qui explique que les Égyptiens ont fait les pyramides, c'était de la magie. Que Jésus a marché sur l'eau, c'était de la magie. C'était un mage. Donc, c'est juste que la magie a toujours existé, mais elle dort pendant 2000 ans, puis elle revient.
Elle revient aujourd'hui. Pourquoi?
Puis c'est juste des cycles. C'est, juste, ouais. c'est des cycles comme les saisons. C'est juste
Est-ce que ça correspond à l'époque?
Ben dans le cas de Shadowrun, il y a toute une explication en jeu, mais c'est cyclique. Puis c'est, éventuellement, ça s'accélère, puis ça mène à la destruction de l'univers. Mais bon, ça, c'est dans longtemps. Mais c'est dans le fond, c'est... T'as Donjons et Dragons, t'as du cyberpunk. Comment tu ramènes les deux ensemble? C'est un petit peu l'argument qu'ils ont fait. Ça crée un univers qui est super riche, super vaste, que je comprends pas qu'il soit si peu exploité dans la culture pop.
Sinon, sa lourdeur, qui est peut-être trop aussi.
Oui, c'est ça, c'est beaucoup.
Quand t'as tout, tu dois avoir des règles pour tout, puis quand t'as des règles pour tout, c'est pas à la portée de tout le monde.
Effectivement.
Faut se donner la peine. Faut se donner la peine.
Oui, il faut quand même un certain niveau pour rentrer vraiment...
Un certain
vraiment
niveau d'investissement de temps, surtout.
Du temps, du travail.
Puis un peu de mémoire, définitivement.
Oui, je crois. Oui, beaucoup de mémoire même. On continue avec une autre de vos chansons. Et ça s'appelle tout simplement « Ça va ».
Nous marchions sur le boulevard de la vie en destination vers la mort. Nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit, hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit, non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit, non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ce que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ce que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis, et que je ne suis plus très loin. Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit. Et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolies. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit, oh tu sais mon gars, j'ai tellement attendu souvent dans ma vie. Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi et on va triper. Pis là j'ai dit c'est bien beau toute seule moteur, mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon B6, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, drette dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté, non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois, et que je les revois bientôt. Si parfois il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute, parce que la vie sans toi s'enligne pour être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois.
Une belle chanson. Et tu me disais hors antenne que tu as pleuré quand tu l'as entendue.
Oui, ben c'est de la poésie, c'est super beau. Puis je voulais inclure ça là. Dans, si on me dit choisis 6 chansons, là, on n'en passera pas 6 ce soir. Choisis 6 chansons que tu apprécies, ben c'est sûr que je peux pas mettre, peux pas mettre du Émile Bilodeau. Puis ben, c'est récent aussi, parce que les deux autres trucs étaient quand même...
un peu plus âgés.
Un petit peu plus d'âge. Puis, ben, ça va aussi, c'est souvent ce qu'on va dire quand on a fini notre tour. OK, ça va. Tu peux jouer, Alex.
On se posait la question aussi, qu'est-ce qui est vrai, finalement? On s'est un peu interrogé là-dessus. Est-ce que la résurgence du jeu, et en même temps son arrivée dans le cinéma, comme vous disiez tout à l'heure, qui devient vraiment un phénomène maintenant de société majeure. Moi, je rappelle la première fois que je suis arrivé à l'université de Sherbrooke. Je suis arrivé à la résidence où je suis, et il y avait des jeunes qui étaient en train de jouer à Loup-Garou. Ils m'ont dit « Ah, est-ce que tu veux jouer avec nous ?» Je me suis retrouvé à jouer à Loup-Garou, je ne connaissais absolument pas. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui répond à une sorte d'attente dans la société, justement, d'avoir un peu de fantastique, d'avoir un peu de rêve, d'avoir un peu de s'échapper, comme tu disais tout à l'heure, dans un monde qui devient de plus en plus lourd?
On en a la philosophie, là. Moi personnellement, je pense qu'on a toujours besoin de façons de s'échapper. Je pense qu'on a toujours... puis, ben, il y en a plein de façons. Puis, je pense que le jeu de société, le jeu de rôle, c'est des façons saines de s'échapper.
Ça a été le livre moins dommageable sur le corps et l'esprit que beaucoup d'autres choses.
C'est vrai. Ça a été le livre. Après, ça a été le cinéma. Et puis, dans les années 80, la pop musique, Madonna et compagnie. Cinéma, est-ce que le jeu va devenir le nouveau médium populaire, la nouvelle culture pop,
Moi, je pense pas.
La musique ou le cinéma l'ont été?
Je pense que ça va rester une alternative, qui va être peut-être une alternative de plus en plus connue, de plus en plus majeure, certes, mais ça va rester une alternative, parce que comme Aïe disait tout à l'heure, les autres activités que tu as nommées, c'est des activités plus passives. Tu t'assois et tu profites. Tu regardes ce qui se passe.
Mais on profite de moins en moins, ouais. Quand même. Parce que quand même, aujourd'hui, la musique, le cinéma, tout ça, ça a tendance un peu à s'affadir. Bon, il y a quelques trucs nouveaux. Moi, je suis très surpris par la scène québécoise, par exemple, hein, Roxane Bruno, des gens comme ça que je trouve hyper intéressants, qui apportent vraiment quelque chose de frais, de nouveau dans la musique. Mais c'est vrai qu'en dehors du Québec, je suis tenté de dire que dans le reste du monde musical, par exemple, bah, c'est quand même un peu le gros affadissement. Ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi Madonna fait un carton avec sa tournée, parce que finalement elle rappelle la glorieuse époque de la pop musique.
Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie là. Je pense que la nostalgie c'était à la mode dans les années 2020. La preuve que les groupes des années 80 puis 70 là, qui font la grosse argent présentement.
Oui, c'est vrai.
Fait qu'à un moment donné, ben regardez, c'est là qu'on est, je pense, qu'en tant que société. Cependant, pour revenir à ta question originale sur est-ce que le jeu et le jeu de rôle peuvent prendre plus de place, l'éléphant dans la pièce, c'est que c'est souvent complexe. C'est pas un hobby qui est simple comme, je veux dire, tricoter. Ou genre, mettre ta mèche en haut.
Ça prend un peu de technique au début. Mais une fois que tu as appris comment ça marche, il y a du monde qui peut faire ça en écoutant la télé, en parlant à d'autres personnes.
C'est pas quelque chose
qui demande de la réflexion continue. Tandis que le jeu de rôle, surtout, et beaucoup de jeux de société demander...
Si tu utilises ton téléphone pendant la partie, je te garantis que tu gagnes pas. Pas dans mon groupe, en tout cas.
Mais il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent.
À moins que tu cherches les règles.
Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au jeu, à ce type de jeu,
ça,
justement.
Ça, c'est bien. On est très contents de ça. Il y a même des gens qui amènent leurs enfants au club, ça arrive.
Ouais.
Puis qui profitent des jeux en famille avec des gens. Puis
d'accord.
Qui permettent de découvrir des nouveaux hobbies, des nouveaux passe-temps. C'est le fun. On est tous pour ça. Mais oui, comme on disait, c'est que ça prend un certain niveau de vouloir apprendre puis de vouloir réfléchir. Probablement qu'on est biaisé à l'université, justement, parce qu'on est dans une université. Donc, tout le monde a un certain niveau de vouloir apprendre puis vouloir réfléchir.
L'avantage du milieu.
Du cadre, ouais, dans lequel on est.
Le milieu fait que c'est plus simple.
Là. On est dans une genre de cage de résonance positive, comme quoi, oui, on veut faire ça. Parce que, peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité qui sont ici veulent apprendre puis réfléchir. C'est pour ça qu'on est dans une université. T'sais.
Est-ce que c'est la réponse à un monde qui devient trop technologique, trop d'intelligence artificielle, trop de ceci, trop de cela, trop d'écran? Est-ce que c'est pas ça la réponse qu'on cherche partout dans les médias? J'entends les journalistes, les éditorialistes.
L'éducation, c'est un remède sans fin à tous les maux. Généralement, n'importe quelle résistance, n'importe quelle...
naît d'une mécompréhension, souvent.
Ouais. Comprendre, je pense que c'est la grande tragédie on regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement, il y a un gros pourcentage de la société qui supporte un certain personnage, moi je l'appelle le Cheetos géant, parce que je refuse de dire son nom, qui a des solutions très simples à des problèmes très complexes. Ça parle d'un manque de compréhension et juste un manque de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans les problèmes. T'sais, on a une crise de migrants, ouais, mais peut-être que si on n'avait pas renvoyé les criminels durcis dans leur pays où ils ont fait des gangs, on n'aurait pas cette crise-là. Il y a des actions qui sont prises qui sont généralement se font dire « Ben là, fais pas ça, là, c'est pas ce que tu vas faire. » Mais c'est populaire de le faire. Ça va attirer la masse, ça va attirer la foule, fait que c'est fait. Et après ça, on vit avec les conséquences de ça.
Est-ce que ça répond pas à des angoisses collectives? Dans une société qui se cherche, dans une société qui est en crise,
mais,
dans une société...
Mais on se les crée nous-mêmes, en Europe, par exemple. On se les crée nous-mêmes. C'est pour ça que je travaille dans l'éducation, personnellement, pour essayer de faire un monde meilleur.
Mm-hmm.
Puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'information, je trouve que justement un des problèmes, c'est justement un manque de compréhension, mais un accès à l'information qui est énorme. Tout le monde est capable d'avoir accès à n'importe quoi, mais dépendamment de son groupe puis de son intérêt à lire plus, l'information peut souvent être mal comprise. Puis ça, c'est un problème majeur.
Et puis les gens sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes ou sur leur groupe, avec des gens avec qui ils sont en accord. Il n'y a plus de communication. Moi, je me souviens des années 80, par exemple. Bon, je suis un peu plus vieux que vous, quand même.
T'es pas plus vieux que moi.
53.
Ah ouais, OK, t'as 3 ans de plus que moi.
D'accord, bon. Donc, t'as connu un peu les années 80, enfin, au moins la fin.
Un peu beaucoup.
Mais c'est vrai, dans les années 80... on se mélangeait, on était de toute origine, de toute... Il n'y avait pas stigmatisation, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, les gens se renferment dans leur communauté, dans leur groupe, avec les gens avec qui ils sont en accord, sans chercher à aller vers
la communication a rendu ça facile. Parce que quand tu es capable de pitcher une idée sur Internet, puis que tout le monde te dise « mais t'es ben con », puis qu'il y en a deux qui te disent « oui », tu vas vouloir leur parler à ces deux-là.
Est-ce que le jeu réinstaure pas ça, justement, ce lien qui s'est perdu?
Ça peut. Ça peut aussi servir de cage de résonance.
Je pense à ça, oui. Je pense qu'on peut se faire facilement une cage de résonance aussi. Je pense que ça dépend. C'est dans la responsabilité personnelle de l'individu de challenger ses propres idées, de sortir de sa cage de résonance, puis de comprendre que personne ne connaît tout, dans le fond. Puis généralement, plus on pense qu'on a connaissance sur le sujet, bon, la question, je vais pas, ah oui, as-tu un doctorat dans le sujet? Non, alors tu connais rien dans le sujet. Si tu acceptes ça, puis tu es capable de mettre ton ego de côté, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là d'accepter l'expertise. Parce que les grandes tragédies de notre monde, c'est que les gens n'acceptent plus les expertises des vrais experts. Parce qu'un expert, c'est pas certain de ce que ça dit. Un expert, ça doute
de ce
que ça dit.
Parce que justement, peut-être parce qu'on a affiché trop de certitudes et qu'on a oublié que la science était d'abord un questionnement et non pas une réponse.
C'est une démarche.
Voilà.
Puis pour revenir à la toute première question que tu as posée dans ce segment-ci, par rapport à l'intelligence artificielle, pourquoi j'ai ri? C'est parce qu'il y a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés par les maîtres de jeu en jeu de rôle pour faciliter la création de monde. Parce que ça a bien beau que créer un monde vivant où tout est possible, mais si tout est possible, si mes joueurs veulent parler au fils du forgeron, c'est qui le fils du forgeron? Ben peut-être que si je demande à l'intelligence artificielle de me générer une liste de 150 NPC de village médiéval, NPC personnages non joueurs, ils vont me générer une liste de 150 personnages avec leur nom, leur âge, leur genre, puis qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, qu'est-ce qu'ils font. Fait que j'ai pas besoin d'inventer 150 personnes que mes joueurs ne parleront peut-être jamais à.
Donc finalement, l'homme peut dominer l'intelligence artificielle?
Il y a définitivement moyen de s'en servir pour te donner des atouts.
Moi, j'utilise ça pour ce qu'on appelle des tâches à faible valeur ajoutée. Si c'est un problème que je peux confier à une première année de technique informatique, je vais le confier à ChatGPT. cependant, je vais reviser ce que ChatGPT a fait après. Parce que on pourrait parler d'AI pendant une autre heure. Si tu veux, on peut repartir. Là. Mais des AI, ça hallucine.
Oui, on n'est pas encore...
c'est pas au point, mettons.
Je pense qu'on est encore tranquille quelques années.
Oui.
Alexandre, vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. J'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup d'auditeurs ont appris beaucoup de choses aussi sur vous, sur votre association. Rappelle-nous, Facebook.
CJSS, facebook.com/ C comme Charles, J comme Joanne, R comme Richard, S deux fois comme Sylvain. et Sylvie. Et Sherbrooke, puisque c'est Sherbrooke après tout.
Et c'est Sherbrooke. Voilà. Et à Sherbrooke, on est bien. Il a neigé ce matin. Il a fait un temps formidable. Et il va paraître qu'il va reneiger encore. Voilà. Donc profitez, voilà, du bel hiver qui arrive. Et justement, quand il va faire froid et qu'il va neiger, ça va être idéal pour venir jouer
au jeu de société. Ben oui, les mercredis, ou venir nous voir à nos soirées de DM joueurs, réseautage, pour partir une soirée de jeu de rôle, si vous voulez l'essayer une fois ou pour une session.
Et le 11 novembre, on est dans le E1001 toute la journée, de 9h à jusqu'à ce qu'on soit plus capable. C'est assez tard. Si vous voulez jouer à n'importe quoi, jeu de rôle, jeu de société, allez nous voir sur Facebook. Il y a un horaire de programmation. Vous pouvez aussi vous pointer direct comme ça, puis vous allez vous trouver des partenaires de jeu dans l'heure qui va suivre.
Si vous aimez les jeux de cartes de combat, Magic, Yu-Gi-Oh, autres, on a du monde qui sont intéressés par ça aussi. Puis on a peut-être même du wargame à voir. Donc, venez
on peut jouer aux échecs?
Il y en a, oui. On a deux jeux.
Il y a un club d'échecs à l'université, par exemple. Je te dirais que c'est un sous-segment de notre population, les échecs qui ont plus... Parce que les échecs, à un moment donné, ben, tu te tannes.
Ben après, c'est un truc de vieux. Bon, voilà, je suis vieux, qu'est-ce que vous voulez?
Non, on a les jeux.
Ah, ben, tu as surpris, la nouvelle génération, là, sont très... Il y en a qui sont très, très échecs. Là.
Bon, ouais. Super. Bon, eh ben, écoutez, c'était un vrai plaisir. Et on va finir par une chanson. Alors, quand j'ai vu le titre La Vie en Rose, je me suis dit, tiens, ça doit être une reprise de La Vie en Rose. Alors non, c'est pas une reprise d'Edith Piaf, mais c'est une très belle chanson de Gilles Valiquette. Mmh. Voilà. Et l'émission va se terminer. Ça sera le générique de fin de cette belle émission avec deux invités qui, vraiment, j'espère, vous ont autant ravis que moi.